souvenir de famille. Philippe de Flair va évoquer pour nous la mémoire de son grand-père, Robert de Flair, de l'Académie française.
Je n'ai pas eu la joie de le connaître. À 3 mois, ma mémoire, pourtant déjà très bonne, n'a pu garder trace de sa voix ni de ses caresses. Mais ses proches ont enchanté ma jeunesse.
Avant de retrouver Axel Mauget en compagnie de Philippe de Flair, voici quelques informations concernant l'académicien Robert de Flair, auteur dramatique et journaliste. Né à Pont-l'Évêque, dans le Calvados, le 25 novembre 1872, Robert de Flair, fils d'un sous-préfet de Pont-l'Évêque, était le descendant d'une des plus vieilles familles de Normandie. Après des études de lettres et de droit, c'est finalement vers la littérature et le journalisme qu'il s'orienta. Un voyage en Orient qu'il avait fait à la fin de ses études lui inspira ses tout premiers écrits. Une nouvelle, La courtisane Taïa et son singe vert, un récit de voyage vers l'Orient et un conte, Ilsé, la princesse de Tripoli. C'est au théâtre cependant que Robert de Flair atteignit à la célébrité. Il écrivit avec Gaston de Cavaillet toute une série de pièces, parmi lesquelles L'habit vert, en 1913, dans laquelle les auteurs raillaient avec beaucoup d'esprit l'Académie française. En 1921, Robert de Flair devint directeur littéraire du Figaro et fréquenta un temps l'arène politique comme conseiller général de la Lozère. Les immortels, ensuite, ne tinrent pas rigueur à Robert de Flair de la pièce qu'il avait écrite sur l'Académie et les lurent le 3 juin 1920. Robert de Flair appartenait à une famille qui comptait déjà plusieurs membres de l'Institut. Il était arrière-petit-fils de Charles Giraud, membre de l'Académie des sciences morales et politiques, et petit-fils d'Eugène de Rosière, membre de l'Académie des inscriptions et belles-lettres. Il était devenu par son mariage le gendre de Victorien Sardou, membre de l'Académie française, de 1877 à 1908. Robert de Flair nous a quittés le 30 juillet 1927.
Je vais donc brosser quelques traits de son caractère à l'aide de témoignages directs et d'anecdotes de sa vie. Francis de Croisset, lors de leur première rencontre, le décrit ainsi. Très élégant, un peu potelé, avec d'éblouissants yeux bleus, un nez aquilin, un sourire spirituel et une moustache à la gauloise impressionnante. Or, à l'époque, d'après James Coquet, les gens du monde portaient plutôt des petites moustaches et de petites barbes taillées comme des jardins à la française. Une moustache à la gauloise ou en crosse de pistolet frisait la contestation. Déjà contestataire, Robert de Flair, né le 25 novembre 1872 à Pont-l'Évêque, est sermonné par son professeur de septième. Pontépiscopien, ne dites pas de bêtises. Une vocation naît alors, la répartie et le rire face aux vexations et aux désagréments de la vie. Je compris fort exactement qu'être né à Pont-l'Évêque constituait un privilège et une originalité dont les autres hommes, ceux qui naissent à Paris comme tout le monde, ne manquent point d'être jaloux. Le sens de la plaisanterie et du jeu de mots ne le quitte plus. La gaieté, la joie de vivre, les réparties amusantes, jamais méchantes, émailleront sa courte vie. Il possède en fait un profond esprit d'observation, une ironie aimable et légère, mais aussi une connaissance, une science des mots et de la langue française lui permettant toutes les audaces. Son esprit brille de mille feux, comme les multiples facettes de sa personnalité. Mondain, voyageur, journaliste, auteur, politicien, diplomate, mais aussi héros de la guerre. Qui est-il en vérité ? Un mondain, courtois, aimable, gai, bon danseur, pétillant et follement séduisant en toutes circonstances, mais sous cette apparente légèreté se cache une grande culture. James de Coquet, encore lui, n'hésite pas à dire « Bref, Robert savait tout, connaissait tout, il avait des lumières sur tout, et tout cela sans aucune pédanterie. » Un voyageur, licencié en droit et en lettres, et de plus chartiste, il se destine au journalisme, mais en opposition avec son grand-père, Eugène de Rosières, membre de l'Institut, sommé de faire ses preuves. Il part à 20 ans au Moyen-Orient, visite l'Italie, la Grèce, Malte, l'Égypte, la Palestine, la Turquie, et en revient avec un récit de voyage vers l'Orient. Ouvrage romantique de 400 pages, point d'orgue de sa culture classique, bientôt couronné par l'Académie française. Sa famille s'incline devant son choix, il sera journaliste. Un journaliste, brillant critique littéraire, chroniqueur, poète à 16 heures, romancier, il termine sa carrière comme directeur du Figaro et président de la Société des auteurs et compositeurs dramatiques, sans se départir de sa fantaisie et de son originalité. James de Coquet, jeune journaliste, raconte. Vers minuit, il venait faire un tour dans la salle de rédaction, où, parfois, je clashais les nouvelles de dernière heure. Il jetait un coup d'œil sur les dépêches. Il était d'un naturel optimiste. Avait peine à croire que tant de calamités fondent chaque jour sur le monde. Cela n'a guère changé. « Attention, me disait-il, n'affolez pas le baron de Berchouilly. » Le baron de Berchouilly était un personnage mythique dont il était l'inventeur. C'était l'abonné grincheux. Il n'y en a qu'un seul, bien entendu. Et il n'est pas de Pont-l'Évêque, ni de Flair. Avec Robert de Flair, tout devenait du théâtre. L'auteur comique et comédien, c'est bien cet aspect de son talent que l'on connaît davantage, le théâtre. Il y règne en maître à l'époque, en qualité d'auteur dramatique. Une trentaine de pièces et d'opérettes sont jouées avec succès et certains titres tiennent encore l'affiche, même aujourd'hui. La Bivère, Le Roi, Les Vignes du Seigneur, Ciboulette et surtout La Veuve Joyeuse avec la musique de Franz Lehár, souvent à l'antenne encore, comme ça peut l'être aujourd'hui.
Séduisit cette bonne patte d'Adam. L'homme ne sait jamais ce que trame. Cœur de femme, 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 femme. Et de chambre d'histoire au matin. Rien ne ressemble pas à deux heures. En vrai que nous répondons le cœur féminin dans les preuves à des dames
Le théâtre est important pour Robert de Flair, car toute la vie s'y joue. Avec Gaston Armand de Caillavet ou Francis de Croisset, ils créent et vivent tour à tour chaque personnage de leur pièce. D'abord en s'amusant eux-mêmes, en improvisant les différentes scènes. Selon Louis Madelin, il détient cette disposition naturelle à enregistrer les traits, les mots, les incidents caractéristiques et de préférence les plus amusants. Leur rire tonitruant empêche de dormir l'une de mes tantes, jeune fille recluse dans sa chambre, tandis que se jouent les psychodrames, préambule de comédie trop légère pour de chastes oreilles. Francis de Croisset dit un jour « Je vois très bien cette scène, je vais sur le champ l'écrire. » « Gardez-vous-en bien, lui répond Robert, ça ne serait plus amusant du tout. » L'échange et le jeu, creuset de ses créations, expérimente les situations et précède l'écriture. Geneviève, son épouse, assiste souvent à l'évolution de ses jeux de scène, tient la plume et doit parfois arrêter les acteurs pour mettre un point final, bien malgré eux, et qui s'en lasse triste. René Doumic raconte que lors de sa réception à l'Académie française, il restait auteur dramatique dans la composition et le style du discours. Tout y était, en scène et en dialogue, et il jouait tous les personnages. Mais le théâtre n'est qu'une facette de son existence. Le politicien, l'homme de responsabilité. Inventeur de multiples personnages, il assume différentes responsabilités dans la vie. S'il raille les uns, fustige les autres, peu lui en tiennent rigueur. Il brocarde l'Académie française. Il y est reçu haut la main quelques années plus tard. Il se moque des diplomates. Il devient ambassadeur. Il critique les hommes politiques, pourtant élu conseiller général du département de la Lozère. Dès l'âge de 26 ans, il le demeure de longues années. Dans l'exercice même de ses responsabilités, il capte les aspects drôles, cocasses, voire ridicules de ses collègues, mettant toujours l'accent sur le rire, sans méchanceté, mais avec un humour parfois aigu. À un importun si fier de sa nouvelle nomination, « Vous savez, maître, ici, tout le monde m'appelle président. » Robert de Flers répond simplement « Laissez-les dire ». Robert de Flers est aussi un ardent défenseur du français en Europe. Il contribue à en imposer l'usage dans les textes officiels. Par son ouvrage « La langue française et la guerre » en 1922, où prend place une bataille serrée entre la Languedoc et la Languedoil. « Tu n'exprimes que la force et la brutalité !» s'écria la Languedoc. « Tu ne célèbres que la mollesse et la joie de vivre !» répliqua la Languedoil. « Tu n'es qu'ambition et violence !» continua la Languedoc. « Tu n'es que paganisme et volupté !» riposta la Languedoil. « Je suis la langue de l'amour !» soupira la Languedoc. « Je suis le verbe des épées !» répondit la Languedoil. « Je te laisse à tes trouvères, et moi à tes troubadours. » Il conclut ainsi le discours prononcé à la séance publique annuelle des cinq académies en 1921. « La langue française n'est pas seulement le miroir de notre histoire. Elle est aussi celui de nos paysages. Elle accueille l'ombre grandiose des cathédrales, aussi bien que l'ombre mince des clochers. Elle est toute sagesse et toute grâce, et en nous penchant un peu, il nous semble qu'à travers sa limpide profondeur, nous apercevions le visage même de la France. Le diplomate, héros de la guerre, chargé de missions secrètes. Cette légèreté apparente masque aussi le courage d'un homme. Robert de Flers porte aussi l'uniforme. Si l'auteur dramatique est bien connu, l'officier, héros de la guerre de 14-18, l'est moins. Sur le front, à Verdun, il découvre l'horreur des tranchées. Il inaugure ainsi en connaissance de cause les monuments aux morts, leur rendant un vibrant hommage au nom de la patrie. Dans son ouvrage « La petite table » en 1920, il rappelle que du village de Chambaron, en Lozère, serti dans le granit de la Margeride, aucun de ceux partis pour le front ne revint pour dire comment c'était. La France a besoin de lui pour accomplir de périlleuses missions. Établir des liaisons secrètes entre le front de France et les armées d'Orient dès 1916. La belle aventure de Robert de Flers, ouvrage d'Emmanuel Chaumier, en souvenir de la pièce du même nom, décrit ce voyage. Déguisé, Robert traverse la Russie de Mourmansk à Odessa, au moment où les bolcheviks fomentaient la révolution de 1917. Un soir, ayant enfin atteint ce grand port russe aux mains des Rouges, il s'endort, rompu de fatigue, dans une chambre d'hôtel sinistre. À son réveil, il demande à son aide-de-camp « De quelle couleur sommes-nous ce matin ?»« Blanc, mon lieutenant. » »« Cela ne durera pas. Filons au plus vite pour gagner Salonique. » Il bénéficie d'une chance incroyable pour se tirer de situations périlleuses prévues par ses supérieurs, l'ambassadeur de Saint-Aulaire et le général Berthelot, qui avait tenté de l'empêcher de se lancer dans cette aventure. Lors de l'une des autres missions, il survole la Roumanie, occupée par les Allemands, pilotée par un as de l'aviation, le lieutenant Noël. Ils échappent aux tirs de l'ennemi et même à un grave accident d'avion. La jonction réussie des deux fronts contribue à accélérer la fin des hostilités et la libération de la Roumanie. Commandeur de la Légion d'honneur, décoré de la Croix de guerre avec de nombreuses palmes, il reçoit aussi des décorations roumaines, serbes et russes. Homme de cœur. Nous avons gardé pour la fin l'homme de cœur. À 13 ans, en 1885, au parloir de l'école Fénelon, il rencontre la sœur de son ami Pierre Sardou, des enfants de Victorien Sardou, auteur dramatique, membre de l'Académie française. Elle était si jolie et tellement blonde qu'il en demeure ébloui et jure aussitôt qu'elle sera sa femme. J'épouserai cette petite fille et pas une autre. Deux jours plus tard, Robert, déjà diplomate, réussit à persuader sa mère d'organiser tous les jeudis après-midi un cours de danse qui se transformera vite en scène de théâtre où Geneviève et lui joueront ses œuvres. Déjà. Il épouse Geneviève en 1901 et devient ainsi le gendre de Victorien Sardou, avec lequel il demeure intime et complice. Lozérien par sa mère, c'est à Cours-sur-Loire que se trouvent ses racines paternelles. Son oncle Camille de Flers et son père Raoul y furent tous deux successivement maires de 1870 à 1904. Au bord de la Loire, l'inspiration revient. Le calme de la campagne, la paix des champs. Il rencontre monsieur le maire et le curé, la mercière et son frère, comme dans son opérette Ciboulette. Parmi ses nombreux amis, Marcel Proust, compte plus que d'autres, est considéré comme faisant partie de la famille. Marcel lui envoie des lettres touchantes, peu de temps avant sa mort, en particulier lors de l'élection de Robert à l'Académie française. Quelques hommages publics. Une statue, pontépiscopienne, célèbre sa naissance. Une avenue à Flers, le berceau de la famille. Un médaillon aux mêmes yeux en Lozère dessine son profil. Une rue à Cours-sur-Loire. Mais une autre à Bucarest rappelle son épopée. Et comble d'ironie, la seule rue souterraine de Paris porte son nom. Pour conclure, je rappellerai une citation de maître René de Lobaldia dans mon dernier ouvrage « Académie française au fil des lettres » de 1635 à nos jours, édité par Gallimard en 2010. Oui, quelle merveille que cette vivacité, cette légèreté de ton. Nos contemporains ont trop tendance à confondre la pesanteur avec la gravité. Ah, que j'eusse aimé rencontrer mon illustre confrère, et tout en sirotant un guignolet kirsch à la terrasse d'un café, discuter tous deux, entre habits verts, de l'éternelle comédie humaine.
C'était Philippe de Flers évoquant la mémoire rayonnante de Robert de Flers de l'Académie française. Alors, qui est Philippe de Flers, le petit-fils de Robert de Flers? Après de brillantes études à Cambridge, à l'Université de Paris de Panthéon-Assas, il obtient un diplôme d'ingénieur de l'École centrale de Lyon, diplôme de gestion à l'Université de Columbia aux États-Unis et décroche son doctorat en sciences de gestion. Donc une belle carrière d'ingénieur et de directeur financier dans le domaine, entre autres, des salins et des salines. Et puis, il a aussi une autre corde à son arc, celui d'être un chercheur au CEA, c'est-à-dire au Centre d'études atomiques. Philippe de Flers a publié plusieurs ouvrages, et notamment un ouvrage très technique qui s'intitule « Pour une gestion personnalisée des capitaux d'endettement » en 1992. Et puis, avec la collaboration de son épouse, Pauline de Flers, et de quelques autres personnages, amis, photographes, il a publié « L'Égypte des sables, une civilisation du désert » en l'an 2000, « Du Sahara au Nil » en 2005, qui a obtenu un prix de l'Institut Prix Bordin, et il est co-illustrateur photographique de plusieurs ouvrages. On peut aussi citer de lui « L'Égypte, le roman du Nil » avec Pauline de Flers, je crois, et son dernier livre en 2010 chez Gallimard, « L'Académie française au fil des lettres ». Au revoir, chers auditeurs.